L'année 1968 est-elle une année révolutionnaire? La nuit des barricades, en mai 1968, fait basculer la France dans la grève générale.
Après plusieurs autres villes aussi différentes que Rome, Berlin, Ouest ou Varsovie, l'agitation étudiante s'est manifestée à Paris.
La révolte des étudiants gronde en ses débuts mai 1968 dans la France de Gaulle. La jeunesse aspire à une nouvelle société. La contestation partie de Nanterre s'étend jusqu'à la Sorbonne et au quartier latin à Paris. Chaque jour apporte son lot de manifestations, de blocages et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Avec nous, pour analyser cette crise de mai 1968, notre historienne spécialiste des années 60 en France. Saïdia, bonjour.
Bonjour Mélissa, bonjour à tous.
Qui nous fait l'honneur de sa présence pour la sortie récente de son livre intitulé « Les débuts d'une révolte mai 1968 ». Nous avons également un ancien élève de la Sorbonne, présent durant la révolte des étudiants en mai 1968. Bonjour Mohamed Amari.
Bonsoir à tous, bonsoir Mélissa.
En quelques semaines, la France s'est métamorphosée. Les jeunes, les femmes, les ouvriers ont réclamé plus de pouvoir, plus de parole, plus de liberté. Selon vous, Saïdia, quel a été l'élément déclencheur de ces événements? Qu'est-ce qui a provoqué toute cette colère en France?
Alors tout d'abord, le 20 mars 1968, à l'Opéra, une centaine d'étudiants de Nanterre manifestent contre la guerre du Vietnam. Pour eux, cette guerre n'a pas lieu d'être. Agissant par fraternité envers l'Indochine et indignés de l'intervention des Américains dans cette histoire, ils revendiquent également les dysfonctionnements de l'enseignement supérieur. Selon eux, la vieille université est à bout de souffle et les débouchés sont minces et a besoin de se renouveler. Il dénonce aussi la société de consommation et le capitalisme qui met à genoux le peuple français. L'arrestation de Daniel Cohn-Bendit, jeune étudiant à Nanterre, à la tête du mouvement, finit par être arrêté.
Vous qui étiez présent, Mohamed, pouvez-vous nous en dire plus sur les débuts de la révolte?
Le 22 mars, il décide d'occuper la tour administrative de l'université. Pendant tout le mois d'avril, les jeunes de Nanterre entretiennent l'agitation. Suite à ces incidents, le 2 mai, le doyen de l'université de Nanterre suspend les cours. Le 3 mai, les étudiants quittent Nanterre et occupent la Sorbonne. Ils sont alors évacués de force par la police. Le quartier latin est en état de siège. Après la fermeture de la Sorbonne, nous sommes réunis pour riposter et manifester contre cette fermeture.
Que s'est-il passé précisément lors de ces affrontements ?
Du 6 mai au 11 mai, il y a eu des affrontements très violents. Nous voulions faire passer un message, mais les manifestations sont devenues de plus en plus violentes. Toutes les voitures des allées étaient retournées et cassées. Nous arrachons les pavés des rues pour les lancer et riposter contre la police. Des étudiants, des étudiantes sont blessés, d'autres en pleurent. Et certains sont terrifiés de ces violences, mais la plupart étaient énervés et voulaient continuer la manifestation.
Quel a été le rôle de la police lors de ces manifestations?
La police était présente dès le début car il y avait eu des manifestations dans l'enceinte de la Sorbonne car ils ne voulaient pas que ça se reproduise. Mais cette violence a augmenté le 10 mai. Nous voulions réussir à encercler la Sorbonne qui a été protégée par la police. Et cette violence a augmenté avec les arrestations, les ripostes et la police est devenue de plus en plus ferme. Et le Premier ministre, le 14 mai, Pompidou ordonne que la police parte et que la Sorbonne rouvre. Les étudiants sont libérés et n'ont pas de conséquences.
Après les émeutes, étudiantes répriment dans la violence. Cette crise se limite-t-elle vraiment aux étudiants? S'étend-elle vers d'autres secteurs de la société française?
Non, cette crise prend de plus en plus de place et prend une tournure politique. On y retrouve des grands noms de l'opposition, tels que François Mitterrand, défilant en tête du cortège, au-delà des revendications matérielles ou salariales, et de la remise en cause du régime gaullien installé depuis 1958. Il voit se déployer une contestation multiforme de tous les types d'autorités. Une partie active du mouvement lycéen et étudiant revendique notamment la libération des mœurs, et au-delà, dans le domaine social, on observe également une crise. Les occupations d'entreprises se multiplient, paralysant le pays. Résistant difficilement, le pouvoir semble vaciller. On dénombre 9 millions de grévistes. Une grève générale paralyse la France, puisqu'elle touche tous les secteurs.
Ces mouvements ont marqué de profonds changements pour la société future, notamment dans le domaine économique et social. Qu'a-t-elle réellement changé sur le plan politique à la suite de ces événements ?
Alors oui, deux jours plus tard, il signe avec le patronat et les syndicats les accords de Grenelle. Le SMIC est augmenté de 25%, les salaires de près de 10%, la durée de travail est réduite pour certains métiers et le droit syndical renforcé. Mais la base ne cède pas et manifeste le soir même. Le 30 mai, l'Assemblée nationale est dissoute, mais il ne se retire pas. Refusant de céder, il demande aux Français de lui exprimer leur soutien et leur attachement au régime. À 17h30, une grande manifestation débute à Paris, rivalisant de par son ampleur avec celle du 13 mai. Les élections législatives sont fixées au 23 et 30 juin. De Gaulle opte pour un référendum. Il fait de ce scrutin un véritable plébiscite. Si son projet est rejeté, il quittera la tête du pays le 27 avril 1969. Le non l'emporte avec 52% des suffrages. De Gaulle assume alors son engagement et se retire.
Qu'avez-vous ressenti, monsieur Amari ?
On ressentait une sorte de frénésie de liberté totale. On en avait juste marre des anciens mœurs qui demeuraient dans le pays. On avait juste l'envie d'avoir une liberté totale sans être jugé dès le moindre faux pas. D'ailleurs, cette liberté s'est ressentie dans la musique qu'on écoutait dans les années qui suivaient. Les sujets étaient beaucoup plus ouverts. Quand on compare les jeunes d'aujourd'hui aux jeunes des années 60, ils ont une liberté énorme comparée à celle qu'on avait avant.
La crise témoigne d'une violence extrême, laissant derrière elle de nombreuses victimes. La France vieillissante se rajeunit d'un coup et se modernise vers un second souffle. Y a-t-il eu des morts ou alors des blessés lors de ces manifestations ?
Alors oui, on peut compter 7 personnes qui ont été tuées. Plusieurs ont été tuées par balles lors de dérapages des forces de l'ordre. Et selon Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur nommé le 31 mai 1968, les affrontements de mai 68 avec les CRS ont fait environ 2000 blessés, dont 200 graves.
Quelles sont les conséquences de ces manifestations ?
Les étudiants à l'origine du mouvement ont permis la mise en place de la loi Faure. Cette loi réforme l'université et intègre les étudiants à la vie des établissements. En réalité, leur action a fait sauter de nombreux verrous et entrer la France dans la voie de la modernisation. Mai 68 va ouvrir la voie à plus de liberté, à une émergence d'idées et d'engagement. Il y a une révolution sexuelle, notamment avec l'arrivée des contraceptifs, la mixité homme-femme est imposée dans toutes les classes. L'âge de la majorité et du droit de vote passe de 21 à 18 ans dès 1976. La propagation de la lutte contre les droits de la femme, du mouvement féministe et de la lutte pour le droit de l'avortement, il y a aussi d'autres changements comme l'influence décroissante de l'Église chrétienne. Du point de vue économique, les augmentations importantes des salaires apportent un essor à l'économie. Et en tout cas, mai 1968 représente une grande période de démocratie directe qui va accélérer l'évolution des mentalités sur le travail, l'environnement et aussi le rôle des femmes.
Merci à nos témoins Mohamed Amari d'avoir participé et à notre historienne Saïdia. Nous terminons notre émission avec une musique des années 1968 de Jean Ferrat intitulée Potemkin.
M'en voudrez-vous beaucoup si je vous dis un monde qui chante au fond de moi au bruit de l'océan ? M'en voudrez-vous beaucoup si la révolte gronde dans ce nom que je dis au vent.